Je dirais deux portions bien connues de la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc. Chapitre 10. Au verset 25. Et voici, un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Et répondant, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus répondant dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs, et qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint. Mais le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha, et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira deux deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Dans le même évangile, nous lirons au chapitre 18. Chapitre 18, au verset 18. Et un des chefs du peuple l'interrogea, disant, « Bon maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements. Ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et il dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, « Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi. » Et lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste, car il était extrêmement riche. Deux hommes, un docteur de la loi, un chef du peuple, et qui rencontrent et interroge la même personne. Jésus. L'un pour l'éprouver, donc avec un sentiment plus ou moins de mépris vis-à-vis de quelqu'un qu'il ne considérait pas comme un vrai prophète. Du moins pouvons-nous penser qu'il était dans ces sentiments-là. L'autre avec des sentiments qui nous paraissent meilleurs, puisqu'il l'appelle bon maître, mais qu'il demande de lui, nous pensons avec sincérité de cœur, quelque chose dont il sentait le besoin. Mais l'un et l'autre posent la même question. Que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? C'est donc qu'il sentait, nous aimons à le penser, même chez le docteur de la loi, ce besoin de la vie éternelle. Et en réalité, c'est un besoin qui, plus ou moins distinctement, plus ou moins constamment, se trouve dans le cœur de tout homme. Mais il signifie, il suppose, que tout homme n'est pas dans la vie, n'a pas la vie éternelle, que par conséquent, il est dans la mort. Il est mortel et il est déjà dans la mort morale. Cette question implique, en effet, ces deux hommes, un docteur de la loi versé dans les Écritures et un chef du peuple honoré, mais qui était effectivement honorable aux yeux des hommes, était mort et avait besoin de la vie, et il fallait que quelqu'un leur indiquât comment la vie pourrait être acquise. L'un et l'autre demandent à faire quelque chose pour hériter de la vie éternelle. Hériter, cela se traduirait aussi bien par recevoir, acquérir, mais il n'est pas sans intérêt de voir que et notre traducteur a été conduit à employer ce mot de hériter, recevoir quelque chose d'un autre, mais de quel droit? De qui pourrait-on hériter? Et de qui un homme, quel qu'il soit, pourrait-il hériter la vie éternelle? De tous ses semblables, quels qu'ils soient, ils ne sauraient hériter que la mort. C'est ce que nous avons hérité de nos parents, pécheurs et mortels comme nous. Hériter de Dieu, ah, il s'agit alors d'avoir affaire à ce Dieu effectivement puissant, sage, saint, juste, Dieu d'amour aussi bien que Dieu de lumière, mais comment s'approcher de lui? Comment hériter quelque chose de lui quand on est un fils de la désobéissance, que l'on est un descendant d'Adam et d'une race coupable? C'est la question que l'un et l'autre soulèvent sans la poser effectivement parce que ils se trouvaient l'un et l'autre dans des conditions telles que pleinement responsable, et devant Dieu, il ne pouvait pourtant rien recevoir de lui, et encore moins la vie éternelle. L'un savait beaucoup de choses. L'un avait la connaissance, et une vraie connaissance, la connaissance des Écritures, la connaissance de la loi. Jésus, à sa question, répond par une autre question. Qu'est-il écrit dans la loi ? Tu es un docteur de la loi, tu l'enseignes au peuple, et tu es dans une condition telle que tu dois savoir ce que Dieu demande à l'homme. Et effectivement, cet homme répond, et répond bien, et répond de manière à être approuvé du Seigneur Jésus. Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. C'est bien cela. C'était un homme privilégié que celui-là, et qui avait en main la clé de la connaissance, qui avait la formule de la vérité, selon qu'on pouvait la voir dans un peuple qui était le peuple favorisé de Dieu à tant d'égards, le peuple choisi pour que Dieu lui révélât sa pensée, lui révélât sa volonté, et qui, ayant été l'objet de grandes délivrances, ayant été aussi le témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu en sainteté, terrible en sainteté, devait être dans les conditions morales les meilleures pour faire quelque chose que Dieu pût agréer, le peuple auquel Dieu avait donné sa loi. Et parmi ce peuple, lui, docteur de la loi, était particulièrement privilégié, puisque il avait pu l'étudier, en faire l'objet de sa méditation personnelle, et qu'il avait le devoir et le privilège de la présenter aux autres. Et il la présente, et il répond au Seigneur, et de la manière la plus intelligente. Il ne présente pas tous les commandements précis d'une loi qui abondait en détails de toute manière, mais il en présente l'esprit même, ce qui est le résumé de toute la loi, les deux grands commandements. À un autre scribe qui, interrogé par le Seigneur, qui donnait au Seigneur les grands commandements, qui demandait au Seigneur les grands commandements de la loi, et celui-ci répondant par les deux commandements que précisément ce docteur de la loi vient d'énoncer, répond, approuvant Jésus, disant, tu as, oui, c'est bien cela, aimer Dieu tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, c'est bien là, toute la loi. Et le Seigneur de lui répondre, le Seigneur de lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Eh bien, le docteur de la loi ici avait en main, il avait dans l'esprit, il avait à sa disposition et tout ce que l'homme avait de la part de Dieu de plus net, de plus clair, s'il s'agissait de répondre à la pensée de Dieu. Un privilégié entre beaucoup d'autres. Mais, avec tout cela, il était venu dans l'intention d'éprouver le Seigneur Jésus et de montrer la supériorité de sa connaissance. En réalité, il montrait combien Ses yeux étaient encore fermés, fermés sur celui qui était la révélation de Dieu ici-bas. L'autre, le chef du peuple, était lui aussi un privilégié. Il n'est pas question là tellement de connaissances, mais il est question de pratique. Et voilà quelqu'un qui pouvait, aux yeux des hommes et à ses propres yeux, se tenir comme un bon observateur de la loi. Quand il interroge le Seigneur Jésus, celui-ci lui dit « Tu sais les commandements ?» Et il, et le Seigneur les énumère lui-même, il ne laisse pas énumérer. Et cet homme peut répondre « Mais les commandements que tu me donnes là, j'ai gardé ces choses dès ma jeunesse. » Et le Seigneur ne le contredit pas. Il aurait pu, sans doute, bien lui mettre devant les yeux bien des occasions où il avait bien dû passer à côté même de ces commandements-là. Et en tout cas, il aurait pu citer d'autres commandements pour ne parler que de la loi morale. Et le dixième commandement, tu ne convoiteras point, et le convainc qu'il avait convaincu. Le Seigneur ne le fait pas. Le Seigneur admet, de même qu'il avait reconnu la vérité de ce que disait le docteur de la loi, tu as bien répondu, de même il accepte ce que disait cet homme. Par ailleurs, ce chef du peuple m'était privilégié par non seulement son honorabilité, et qu'il pouvait estimer une valeur morale dans ce monde aux yeux des hommes, mais il était riche, abondamment riche, et c'était parmi les Juifs un témoignage de cela, passé pour un témoignage de la bénédiction de Dieu, de la récompense de Dieu, la fidélité d'un homme. Ce n'est pas toujours le cas, mais on pouvait le considérer ainsi. De toute manière, il était un privilégié entre tous. Seulement, à l'un et à l'autre, à celui qui connaissait beaucoup, et à celui qui avait fait beaucoup, et qui avait beaucoup, et le Seigneur est appelé à montrer, à placer devant eux, qu'il leur manquait des choses les choses essentielles. Ah, tu sais beaucoup de choses, et tu connais la loi. Docteur de la loi qui répond ainsi intelligemment. Mais il y a une chose que tu ne sais pas. C'est employer la loi comme elle doit l'être, c'est répondre par la loi à la pensée de Dieu, c'est trouver exactement ta place devant Dieu. Tu l'aurais trouvée si véritablement tu avais laissé agir la loi sur ta conscience et sur ton cœur. Et le Seigneur lui parle par une parabole lorsque l'autre, voulant se justifier, s'entend bien que ce n'était pas le fait de répondre exactement sur la loi qui suffisait, que ce qui importait, c'était la réalité de l'application de la loi, c'était la véritable obéissance à ce que Dieu demandait, c'était aimer comme Dieu dans cette loi le demandait, aimer Dieu tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, aimer son prochain comme soi-même. Et il sentait le besoin de se justifier. Il n'ose pas parler, De l'amour de Dieu, cela, c'est un tiers-gère. On dit, c'est une affaire de conscience. Chacun a affaire avec Dieu à cet égard. Ce qui est vrai. Mais, dans bien des cas, ce sont là des formules pour que personne ne cherche à pénétrer le secret de la conscience, alors que soi-même, on sent que cette conscience n'est pas tranquille, mais on ne veut pas s'attarder sur ce qui cause ce malaise de la conscience, et l'on se détourne d'une manière ou de l'autre. Mais aimer son prochain, cela est vu, cela se connaît. Et est-il bien vrai que j'ai toujours aimé mon prochain comme moi-même? D'abord, qui est mon prochain? Voulant se justifier, il pose la question. C'était une question traditionnelle d'ailleurs dans les disputes entre rabbins sur la loi et l'observation de la loi. Qui est mon prochain? Ah, tu ne sais pas qui est ton prochain. Tu ne sais pas qui aimer. Et tu as des distinctions à faire et tu ne sais pas comment les faire. Et la loi elle-même t'en indique. Et car la loi disait, alors dans d'autres commandements, qu'il y avait des ennemis et qu'il y avait son prochain. Alors qui est mon prochain et qui est mon ennemi? Cet homme se sert de cet échappatoire pour se disculper aux yeux du Seigneur Jésus. Qui est mon prochain? Il ne savait pas qui était son prochain. Quant à celui qui avait un passé si honorable et qui pouvait dire qu'il avait gardé ses commandements dès sa jeunesse, le Seigneur lui dit qu'il lui manquait une chose. Lui aussi, comblé, privilégié de tant de manières, manquait de la chose la plus importante, de la chose capitale. C'était la connaissance de la servitude, la servitude de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Il ne savait pas qu'il avait tellement de choses en trop dont il lui fallait se débarrasser et qu'il lui manquait la seule chose nécessaire, c'était d'aller dépouiller de tout. Comment Paul commence par affirmer, démontrer par l'Écriture et attester par la suite de témoins oculaires que la résurrection du Seigneur Jésus a eu ici-bas, cette grande vérité, ou plutôt ce grand fait de la résurrection de Christ. Élément capital, fondamental de l'Évangile qu'il avait annoncé aux Corinthiens et qu'il leur rappelle. Et il conclut en disant, soit donc moi, les autres apôtres, soit moi, soit eux, les autres apôtres, nous prêchons ainsi. C'est-à-dire que Christ est mort, a été enseveli et a été ressuscité le troisième jour. Et vous avez cru ainsi. Ce grand fait bien établi, il dit, comment se fait-il qu'il y en ait parmi vous qui nient la résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, et l'apôtre commence là une démonstration, un raisonnement très logique, mais inspiré, en disant, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ est mort. Christ n'est pas ressuscité. Parce que Christ est réellement mort. C'est le Fils de Dieu, mais c'est un homme qui est mort. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y en a pas pour lui. Et il est encore mort. Et vous-même, vous êtes encore dans vos péchés. Et notre prédication est vaine, plus que cela. Nous avons été de faux témoins, et nous les apôtres. Et si cette fausse doctrine correspondait à la réalité, alors quelle triste condition que celle de gens qui auraient cru à un mensonge. Ils auraient fait Dieu menteur, car les Écritures sont les Écritures de Dieu, mais quant à eux-mêmes, ils n'auraient aucun espoir pour l'avenir, et ils n'auraient pour la vie présente que la plus grande misère morale. Il n'aurait aucune des satisfactions que les hommes pensent trouver dans ce monde, et il n'aurait rien au-delà. Et alors, il est remarquable que ce soit à ce moment que l'apôtre interrompt sa démonstration, cette discussion la doctrine de la résurrection des morts. Il la reprend au verset 29, comme nous l'avons vu, et le paragraphe qui va du verset 20 au verset 28 est donc une parenthèse. Et cette parenthèse est magnifique, et elle est remarquablement à sa place, nous saurions nous en étonner, parce que elle met en contraste avec ce qui serait la part misérable de ceux qui professent le christianisme s'il n'y avait pas de résurrection des morts. Il met en contraste avec cela les glorieuses perspectives et les certitudes, plus exactement, qui sont celles de la foi. Qui, dans la résurrection de Christ, voit le prélude, le premier acte de l'accomplissement de pensées glorieuses de Dieu allant jusqu'à l'état éternel où la mort ne sera plus. Et ces versets qui ont été et qui continuent à être en encouragement et en consolation à tant et tant de chrétiens, constituent un enseignement proprement unique dans la parole, car là se concentre un ensemble de vérités, de faits, présent, actuel et futur, qui nous ouvre sur toute l'histoire du monde, les vues, les perspectives, mais plus que cela, des vues précises, qui, à la lumière desquelles, on peut dire, toute l'histoire de l'humanité s'éclaire, et tout ce que la parole d'un bout à l'autre vient placer devant nous. Et tout cela s'ordonne.